Bonsoir les frères et sœurs, ça va?
Oui.
Oh, eh ben dis donc, on est tous réunis, et là, pour la première fois, tous réunis en communauté, dans le sud-ouest. C'est pas simplement une visite que nous faisons à une partie de la communauté, nous sommes dans la communauté, enfin, complètement toutes réunies dans le sud-ouest, comme on l'a rêvé. Et on est content, on applaudit le Seigneur. Ça sature, vous faites beaucoup de bruit. Non, c'est pas grave. On va lire psaume 34, on va aller directement au but. Psaume 34 et verset 20. C'est le verset, en fait, qui était celui que Violette Duval, l'épouse de Raphaël, citait tout le temps. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre
toujours.
Toujours. Gloire à Dieu. Vous avez compris. Et comme je vous le disais dimanche passé, on a vécu une épreuve terrible, une épreuve comme jamais nous avons eu dans notre vie chrétienne, mon épouse et moi. Jamais. Jamais, jamais. On a eu des choses terribles qui nous sont arrivées, mais ça dépasse tout. Ce soir, je ne vais pas vous faire une prédication, je vais vous donner un témoignage. Je vais vous apporter un témoignage, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, afin que vous puissiez... Peut-être que ça serait peut-être mieux, Charles, si tu allais peut-être là-bas. Excusez-moi, nous avons des amis italiens parmi nous, et il traduit, donc, et comme il est à côté de moi, vous risquez d'entendre la traduction en même temps, c'est un petit peu gênant. C'est un témoignage que je vais vous apporter ce soir parce que je sais que beaucoup de chrétiens sont dans la souffrance et je ne voudrais pas que vous pensiez que les serviteurs de Dieu ne sont jamais dans la souffrance. Les serviteurs de Dieu font souvent croire cela, ils sont dans les coulisses, on ne les voit pas, on ne sait pas comment ils vivent et on les voit toujours sur l'estrade, sous les lumières, et on pense que tout va bien dans leur vie, puis après ils rentrent dans leur maison, et ils ont leur souffrance, mais ils ne cachent, ils ne montrent pas, parce qu'ils veulent apporter un évangile positif, et faire croire que tout va bien, madame la marquise, et ils sont des hommes super surnaturels, à qui il n'arrive jamais rien, que tout va bien, et ben c'est pas vrai, il faut casser cette image, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mon épouse et moi, nous avons décidé de vivre l'Église telle qu'elle était au commencement, c'est-à-dire en communauté. Quand on est en communauté, on ne triche pas, on montre tout. Donc tous les frères et sœurs savent dans notre communauté ce qui s'est passé depuis le début. Alors, juste vous qui êtes sur Internet, vous ne savez pas. Donc, je vais vous le dire ce soir, afin que vous sachiez, que vous soyez au courant, et surtout, si vous souffrez, que vous puissiez trouver des forces pour sachiez qu'il faut se battre dans la vie et que c'est bon de se battre et de glorifier Dieu au sein de la souffrance. Comme je vous le disais, donc, on n'a jamais passé par une épreuve aussi terrible. Je ne vais pas vous redire ce que ces gens nous ont fait, les chrétiens. Ça a été ignoble. Vous savez, d'habitude, quand quelque chose ne va pas, Dieu m'a fait comme ça. Je réagis. Je pousse ma gueulante, comme on dit. Ah, j'entends encore pousser sa gueulante. Mais là, je suis resté prostré. Mais vraiment, je suis resté prostré. Et j'étais tellement outré, que je me suis enfermé en moi-même. Alors bien sûr, je priais, bien sûr, je parlais avec les frères et sœurs fidèles dans la communauté, mais je n'exprimais pas ma douleur comme j'aurais dû le faire. Et bien, j'ai eu tort de ne pas le faire. Il faut exprimer sa douleur. Mais en même temps, je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas quoi faire. Parce que la situation, ils avaient tellement bien bloqué la situation qu'il n'y avait rien à faire. Sinon, faire ce qu'on a fait finalement, fuir. Mais en attendant, eh bien, c'était une souffrance terrible. Mon épouse et moi, nous étions accusés avec un tel aplomb. Et même par écrit. Les écrits restent, hein. Je me disais, vous savez, je me disais, je pardonne, et je priais, je dis, Seigneur, je les pardonne. Mais chaque jour, ils en remettaient une couche. Alors, vous savez, quand on garde en soi une souffrance, mais il faut bien qu'elle sorte d'une manière ou d'une autre. Alors, des fois, ça sort sous la forme d'un furoncle, ça fait très mal, mais bon, il faut que ça sorte. Moi, excusez-moi, c'est sorti d'une façon Autre encore, je vais parler d'une chose dont les pasteurs ne parlent pas en général dans les prédications, mais moi, vous me connaissez. Si vous venez sur Internet, sur Révélation Bible, c'est que vous me connaissez. Donc, il n'y a pas de problème. Ça s'est manifesté par une constipation, mais une constipation géante, qui a duré des mois. J'ai souffert, je pleurais aux toilettes, tous les jours. Rien n'y faisait, les régimes, les machins, rien n'y faisait. En fait, c'était tellement épouvantable que je m'en suis fait réellement une fissure à l'intestin. Et je ne vous raconte pas les douleurs, c'était pendant des mois. On est parti en vacances avec nos petits-enfants et tout, mais c'était des souffrances. Quelque chose d'épouvantable. Je sais, je vous comprends, si vous êtes dans la souffrance, je peux compatir, souffrir avec, comprendre, parce que j'ai passé par là d'une façon, c'est épouvantable. Bon, maintenant, je vais tout vous dire. Je souffrais tellement, mais tellement, que fin novembre 2015, j'ai dû subir une opération chirurgicale sous anesthésie totale, parce que c'était grave, la fissure était bien grave. Et sur la table d'opération, le chirurgien a vu que la fissure avait dégénéré en cancer. Il est venu me dire ça le lendemain, je vous promets, il était malheureux. C'est quand un médecin doit dire ça à un patient, eh ben, il lui faut du courage parce qu'on ne sait jamais comment le patient peut réagir. Le compte-rendu médical affirme nettement, par écrit aussi, que tout cela est dû à un stress très fort. Alors, je leur ai raconté un peu ce qui m'est arrivé, ils ont dit, bon, on comprend. Vous savez, être accusé soi-même de choses fausses, j'ai l'habitude, on a tout dit sur moi, sauf pédophile. Je crois que ça, c'est la seule chose qu'on n'a jamais dit, mais à part ça, on a tout dit sur Michel Jonton, tout. Donc, j'ai l'habitude. Avec toutes ces sales langues de vipères qui rampent dans les églises, ça, croyez-moi, depuis 1968, j'ai tout vu, j'ai tout entendu, c'est une horreur. Mais là, ce que je n'ai pas avalé, ce qui m'a tué, c'est que mon épouse était accusée d'horreur, par écrit. Nous avons encore les écrits. Nos comptables nous ont complètement justifié, mon épouse et moi, tout ça est par écrit aussi. Mais ça n'a rien changé. Ils n'ont même pas, ces gens qui nous avaient accusés ne se sont même pas excusés en disant « Ah ben, excusez-nous ». Non, rien du tout. C'était toujours nous les méchants, c'était toujours nous les... Bon. Mais le mal était fait, n'empêche. Le mal était fait, cancer. Cancer de l'intestin. Et combien de chances d'en sortir ? Ben ça... Et puis même si je m'en sortais, c'était tellement mal placé... qu'il était possible que j'ai une poche à vie. Vous savez ce que ça veut dire? C'est réjouissant, n'est-ce pas? Je suis heureusement tombé sur une équipe médicale extraordinaire à Chartres. Et je suis parti en taxi 33 fois pour faire de la radiothérapie. 33 fois. Comment je sais ça? Ben c'est simple. J'avais un programme, je vais faire 33 séances de radiothérapie. Et ceux qui nous ont fait du mal, qui m'ont stressé comme ça, qui ont été la cause de la chose, ils m'ont vu partir. Ils étaient là. Ils me voyaient tous les matins, tous les 4 à 5 fois par semaine, partir en taxi. C'est quand même pas normal que je parte en taxi, puis que je maigrisse comme je maigrissais. Ils m'ont vu partir plus de 33 fois, parce qu'en fait, il y a encore eu la chimio, plus des examens, des TEP scans, etc., etc., et que c'est au moins soit plus de 40 fois. Eh bien, quand on voit un voisin qui part en taxi autant de fois et qui maigrit, eh bien, on se demande ce qu'il a, ou on demande ce qu'il a. Eux, non. Non. Pas un mot. Pas une question, rien. Alors mes frères et sœurs, ça me conforte encore dans ce que je pense. Entre leur christianisme et le mien, je choisis le mien. Ils disent tout ce qu'ils veulent sur mon christianisme, soi-disant hérésie, je préfère mon christianisme à leur christianisme. Alors, ça n'a pas été drôle. La radiothérapie, je vous dis ça parce que peut-être qu'on vient de vous annoncer que vous avez un cancer et que vous allez devoir faire de la radiothérapie. N'ayez pas peur, la radiothérapie ne fait pas mal. sur le moment. Pendant les séances, ça fait rien. Mais après, on m'avait averti, au bout de 3 semaines, ça va venir, vous aurez des dommages collatéraux, m'avait-il dit. Moi, ça a tenu 5 semaines avant que ça se déclenche, parce que je suis quand même une nature assez forte. Et puis on priait aussi derrière. Mais les dommages collatéraux sont arrivés. Les rayons ne brûlent pas que la tumeur, ils brûlent tout ce qu'il y a autour. Et même, ils brûlent la peau. Ma peau, dans l'endroit, était en lambeaux, à vif, à sang. Et ça, ça fait très mal. Et puis, il fallait quand même bien manger, parce que si on ne mange pas en heure. Et puis, quand on mange, qu'est-ce qui se passe après? On va aux toilettes. Et c'est redouleur. C'est épouvantable. Épouvantable. Et c'est Michou, mon épouse, qui me soignait tous les jours et tous les jours. Et moi, je continuais à prêcher pendant toute cette période. Vous m'avez entendu prêcher tous les dimanches et tous les vendredis. Je continuais. Mais ce que vous ne savez pas sur Internet, ce que vous n'avez pas vu, c'est que j'étais obligé de m'asseoir. Je ne pouvais même plus tenir debout tellement que j'étais affaibli. J'étais épuisé. C'est surtout la chimiothérapie qui fatigue. Ça fatigue terrible. Et vous, peut-être, qui avez le cancer et qui m'entendez, eh bien, soyez fort, tenez fort. Ne vous laissez pas avoir. Nos chers dissidents, vous voyez que les infirmières du village venaient chez nous, vers moi. Pas une question, rien. Pas un geste de compassion, pas une parole de compassion. Ils croisaient ma femme tous les jours qui fait leur lessive. Tous les jours. Ils n'ont jamais demandé « Qu'est-ce qu'il a, Michel? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» ou « Qu'est-ce qui se passe ?» Rien, pas un mot. En fait, j'étais quand même leur ex-pasteur, malgré tout quand même. C'était moi qui leur avais présenté Jésus il y a une trentaine d'années. Pendant 30 ans, ils ont dit des choses merveilleuses sur nous. Ils ont écrit leurs témoignages dans le livre Oracle. Ils m'ont écrit des petits mots gentils. On l'a tout gardé, moi j'ai tout gardé. J'ai un esprit collectionneur, j'ai tout gardé. Tous leurs petits mots, leurs cartes d'anniversaire, tout, j'ai tout gardé. Il y en a qui... Bon, certains jours, je relisais justement ces lettres et ces petits mots et j'écoutais tout ça, les témoignages qu'ils racontaient ou alors ce qu'ils ont écrit dans l'oracle, leurs beaux témoignages. Eh bien, j'arrivais pas à croire que c'était les mêmes personnes. Non, ces gens-là, mes frères et sœurs, ne sont pas le fruit de mon ministère. C'est pas possible. Je dis que ce n'est pas le fruit de mon ministère, pas plus que l'Église catholique est le fruit du ministère de Jésus. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Je vous répète, c'est pas pour dire du mal d'eux. C'est pour vous aider si vous aussi vous êtes injustement accusé, ou si vous avez un cancer, ou si vous avez une maladie, si vous avez quelque chose qui vous fait souffrir, ou si vous êtes dans une situation qui est bloquée, ou si des gens vous persécutent. Je sais que mes prédications vont loin dans le monde et qu'il se peut que vous soyez dans un pays où justement les chrétiens sont persécutés. Vous n'êtes pas les seuls à souffrir, il faut que vous teniez bon. Les frères et sœurs de la communauté, qui sont fidèles, ont été formidables. D'ailleurs, ils sont tous là. On a tous fui, on est tous partis, on est tous là maintenant, dans le sud-ouest. Et ils ont été formidables pendant tout ce temps, pendant tous ces mois. On a prié, on a confessé la parole de Dieu au sujet de la guérison, on a lutté dans la prière, il y en a qui ont jeûné, ça a été un moment où ça, en fait, on a été ressoudés les uns les autres. Et je faisais toujours des examens, et le 19 juin, après avoir passé plusieurs examens, la nouvelle est tombée de la bouche de l'oncologue, parce que maintenant on ne dit plus cancérologue, ça fait peur, on dit oncologue. La nouvelle est tombée. Monsieur Genton, vous n'avez plus de cancer. Ouh ! Avec ma femme, on s'est levé et on lui a sauté au cou, on l'a embrassé. Se demandait ce qui se passe. On était fous de joie, c'est extraordinaire. Les médecins m'ont soigné et Jésus m'a guéri. Vous savez, les médecins ne guérissent pas, ils soignent. Dieu leur a donné l'intelligence pour qu'ils puissent soulager la souffrance, pour qu'ils puissent soigner. Mais c'est Jésus qui guérit, c'est lui qui donne la vie là où il y a la mort qui s'installe. Un cancer, c'est un esprit de mort qui s'installe là. Et Jésus l'a enlevé. Et je suis infiniment reconnaissant à ces médecins, à toute l'équipe de radiologie, de chimiothérapie, à l'oncologue qui m'a soigné, une femme adorable, quelqu'un d'extraordinaire, aux chirurgiens, à ceux qui m'ont fait les coloscopies et je ne sais quoi d'autre, enfin des gens tous plus gentils les uns que les autres, des vrais chrétiens on pourrait dire, hein? Ça oui, là ça c'est des, on pourrait dire c'est des vrais chrétiens. Alors on leur a rendu témoignage, on a donné le bouquin L'Oracle, comme ça ils vont pouvoir lire le beau témoignage de nos frères dissidents aussi. Mais Dieu a posé sa main sur la vie de cette tumeur et il a tué cette tumeur et il m'a guéri. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà pourquoi je vous raconte tout cela. Battez-vous! Il faut vous battre, mes frères et sœurs. Ne vous laissez pas faire, ni par les gens, ni par la maladie, ni par les démons, par rien. Battez-vous, ne vous laissez pas faire. S'il faut pousser la gueulante, poussez votre gueulante. Quand vous chassez un démon, ne lui dites pas « Oh non Jésus, il faut que tu partes maintenant. » Non, allez-y, fermement. Si quelqu'un vient vous mettre les bâtons dans les roues, faites-lui comprendre que c'est pas bien, mais fermement. On n'est pas des poules mouillées. Moi, j'étais atterré, je me suis laissé avoir. J'ai presque honte de m'être laissé avoir comme ça. Mais après, je me suis ressaisi quand j'ai vu que j'étais au bord de la mort, là, que mon intestin pourrissait, que j'avais. Je me suis battu. Michou, mon épouse, s'est battue à mes côtés. Mes frères et sœurs fidèles de la communauté se sont battus à mes côtés. On a prié. On a chassé ce mal au nom de Jésus. On a chassé ce cancer. Satan, tu m'as pas eu. Amen. Tu m'as pas eu. Tu es vaincu au nom de Jésus. Satan, tu es vaincu. Ainsi que tous tes serviteurs humains et tous tes serviteurs spirituel, tes démons, tes esprits de mort et tout ça, au nom de Jésus, vaincu, dégagé. Amen. 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 Plusieurs amis chrétiens ont prié aussi, mais je n'ai pas averti tout le monde. J'ai dit juste à ceux que je savais que Dieu les exauce. Et puis, à d'autres, je n'ai pas dit parce que je ne voulais pas leur faire de mal. Je voulais pas leur. Je sais que ça les aurait tourmentés, donc j'ai préféré rien dire du tout. Mais ceux qui sont forts, j'aurais dit. Alors ils m'ont téléphoné, ils m'ont envoyé des SMS, on s'est écrit et tout, et je leur suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre qui va raconter tout ça. Je raconterai comment, alors que parfois j'étais vraiment découragé, des chrétiens m'ont aidé en m'engueulant. En m'engueulant, mais franchement, en me disant, je vais vous dire juste le nom d'une qui m'engueulait. C'est Liliane Savigny-Auzère. Elle a été terrible avec moi. Elle m'a passé de ses bordées. Elle m'a engueulé. Non, mais ça va pas, bouge-toi, mais bats-toi, qu'est-ce que c'est que ce chiffre molle? Et tout m'engueulé. Mais merci Liliane, merci. Et puis à tous ceux qui ont été comme ça, merci d'avoir été avec moi. Merci de m'avoir engueulé quand je baissais les bras. Merci, ça m'a tellement aidé. Tellement aidé. Maintenant, je vais vous dire une chose claire. Je ne pardonne pas ceux qui nous ont fait autant de mal. Parce qu'il n'y a rien à pardonner. Peut-être vous n'allez pas comprendre tout de suite, mais réfléchissez un peu. Ils ne savent pas ce qu'ils faisaient. Ils ne sont pas rendus compte que c'était si important pour Michou et pour moi, que c'était tout notre rêve qu'ils étaient en train de foutre par terre. Ils ne se sont pas rendus compte. Ils n'ont pas pensé que c'était grave. Ils n'ont pas pensé que ça ferait autant de mal. Ils se croyaient juste. Ils nous croyaient faux. Ils se croient toujours super saints par rapport à Michou et moi, super inspirés par rapport à Michou et moi, super. Si vous voulez comprendre vraiment ce que je dis quand je dis je n'ai rien à leur pardonner, allez donc écouter la prédication dont le titre est « Les Vierges Folles ». C'est une prédication qui date du 3 juin 2016, vous allez mieux comprendre. Écoutez cette prédication, vous allez mieux comprendre. Dans cette prédication, je dis que Jésus parle toujours des bons et des méchants, des brebis et des boucs, des bons et des méchants, mais il ne parle que très peu des imbéciles. On peut pardonner un méchant, mais une personne qui est sûre de faire le bien quand elle est en train de faire le mal, qu'est-ce que vous voulez lui en vouloir? Il faut simplement fuir, c'est tout. On ne peut même pas discuter. Qu'est-ce que vous voulez discuter, par exemple, avec des terroristes? Qu'est-ce que vous voulez discuter avec des gens qui c'est pas, ils veulent rien écouter, qui ne veulent pas écouter, qui sont empêchés d'écouter par je ne sais pas quel démon? Alors voilà. Réjouissez-vous avec nous, je n'ai plus de cancer. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais vous raconter une anecdote pour terminer. Quand j'ai appris que j'avais un cancer, j'ai téléphoné tout de suite à Ladona Osborne, c'est la fille de T.L. Osborne, mon papa spirituel, celui qui m'a ordonné dans le ministère. Et vous savez ce qu'elle m'a dit ? Ça aussi, c'est extraordinaire. C'est pas une femme à vous... Vous savez, les gens qui vous plaignent, ou c'est très gentil, ça peut être très gentil, mais elle n'a pas du tout réagi comme ça. Elle a réagi vraiment comme une femme spirituelle. Elle m'a dit, « Frère Michel, depuis combien de temps n'avez-vous pas relu les livres de mon papa concernant la guérison divine ?» Quelle claque ! Quelle claque ! Mais elle avait raison, c'est ça qu'il fallait me dire. C'est ça qu'il fallait me dire. Parce que bien sûr, je les ai lus. Bien sûr, je les ai lus, ces bouquins. Je les ai enseignés aux autres. C'est ainsi qu'il y a eu des milliers de miracles un peu partout. J'ai visité 70 pays, j'ai vu des miracles, des milliers de miracles dans mon ministère. Parce que je me suis inspiré des écrits de mon papa Osborne au sujet de la guérison divine. Je les ai tous lus, ces bouquins sur la guérison divine, mais jamais pour moi. Pourquoi j'allais les lire pour moi, je suis en bonne santé? Vous voyez? Mais là, ces livres-là, waouh, ça m'a choqué comme jamais. Pourquoi? Parce que c'était moi qui étais vraiment malade. Alors je les ai bouffés, je les ai dévorés, je les ai digérés, je les ai vraiment mangés. Et ça a été salutaire, mes frères et sœurs. Lisez les livres de T.L. Osborne. Vous en avez sur Révélation Bible. Sur la colonne de droite, vous avez un endroit où c'est écrit, je crois, littérature, quelque chose comme ça. Et vous allez voir, il y a les 7 pas pour la guérison par Christ, ou la confession de la foi de T.L. Osborne. Lisez ça, nourrissez-vous de ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une parole qui déclenche des miracles. Et puis j'ai eu 2 songes aussi, qui m'ont montré l'origine diabolique de tout ce mal spirituel. C'est un mal spirituel, c'est un mal diabolique. Et Dieu m'a montré dans 2 songes, et je ne veux pas vous les raconter là, mais ça sera dans le prochain livre, celui que je suis en train d'écrire. J'ai aussi eu au téléphone un prophète qui ne me connaissait pas. Et parce qu'il y a des faux prophètes, mais il y en a des vrais. Hein. C'est comme les billets de 50 euros. S'il y a des faux, c'est qu'il y a des vrais. Hein. Donc les prophètes, il y a des vrais, puis il y a des faux. Alors là, celui-là, c'est un vrai prophète. Il ne m'avait jamais vu et tout. Et Dieu lui a révélé que l'homme de Dieu, qui était mon mentor, c'est comme ça qu'on dit, mon mentor, c'était un grand serviteur de Dieu. Il dit, je le vois à côté de vous, c'était El Osborne. N'est-ce pas la vérité? Je dis oui. Il me dit, je vois que vous faites du sport, vous musclez, vous poussez des poids, de la fonte. Et je vois que vous avez une grande maison, vous êtes dans une grande maison, mais votre communauté est petite, il n'y a pas beaucoup de monde, et vous avez des très graves problèmes en ce moment, mais vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Et je vois que vous êtes malade, mais c'est rien, Jésus va vous guérir. C'est extraordinaire. Et puis beaucoup d'autres choses, en gros. Mais tout ça, ça sera dans mon livre, et je vous expliquerai tout ça. C'est des choses. Voilà, Dieu parle d'une façon précise. Et c'est pas vague, là. Hein? Quand on vient vous dire une chose comme ça, c'est pas vague. Et vraiment, c'est quelqu'un que je ne connais pas, qui ne me connaît pas. Ça s'est présenté d'une façon tout à fait miraculeuse. C'est extraordinaire. Mais ça m'a aidé à ne pas m'inquiéter. Mais il y avait quand même des moments où c'était... Vous savez, quand vous souffrez, c'est pas toujours tellement rigolo. Voilà, Dieu est vivant. Et il n'abandonne pas son serviteur. Le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors ne restez pas dans la maladie. Battez-vous. Ne restez pas dans la maladie. La maladie, c'est pas ce qui est normal. C'est pas la norme. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de malades dans la vie que vous rencontrez que c'est normal que vous aussi vous en attrapiez une. C'est pas normal. Jésus a porté nos péchés et il a porté nos maladies. Il a porté tous nos péchés et il a porté toutes nos maladies. Quand l'autre faux prophète qui m'accusait venait me dire que j'avais des péchés, etc., etc., je dis, mais quel péché? Il me dit, alors, il ne voulait jamais me dire, quel péché? Non, rien. Il me dit, oui, tu ne pardonnes pas, mais y a, ceux qui me connaissent vraiment savent s'il y a quelqu'un qui pardonne sur cette terre et qui efface et qui oublie, c'est moi. Mais non. Non, il croyait que j'étais... Dieu pardonne. Quand vous êtes chrétien, La Bible dit, confesse ton péché et je suis Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner. Vous avez, le diable ne peut pas, n'a pas le droit de vous accuser. Il pardonne tous vos péchés. Jésus pardonne tous vos péchés. Et la Bible dit en même temps, et il guérit toutes tes maladies. Mais c'est à toi de croire. C'est à toi de te battre. Personne ne peut se battre à ta place. On peut t'aider à te battre, mais on ne peut pas se battre à ta place. Il faut que toi, tu te battes. Amen. Il faut que tu te battes. Mon ami, il faut que tu te battes. Il ne faut pas rester comme ça. J'ai un ami qui s'appelle Marc Croza qui m'a recommandé des produits contre le cancer. C'est des produits d'un professeur qui s'appelle Beljanski. On voit là un qui s'est battu aussi. Le professeur Beljanski, c'est quelqu'un... Mitterrand prenait ses produits. Ça a prolongé sa vie. C'était extraordinaire. Beljanski travaillait chez... Comment on appelle ça? Pasteur, c'est ça? Institut Pasteur. Et vous pouvez trouver son histoire sur Internet. C'est lamentable ce que la France lui a fait. Lamentable. Eh bien, d'ailleurs, il en est mort de tellement que ça l'a choqué, tellement que c'était horrible ce qu'ils lui ont fait. Il a trouvé quelque chose pour guérir du cancer qui est autre que la chimiothérapie, donc qui ne vous abîme pas autant et qui vous guérit. Mais comme sa découverte, elle est tombée en même temps que... vous rappelez l'histoire du sang contaminé, c'est tombé à ce moment-là et l'Institut Pasteur a dit non, on ne va pas encore parler d'autre chose, ça va, c'est pas le moment, il ne faut pas, etc. Et ils ont fait tellement d'histoires que finalement il a dû fuir la France, mais c'est la police qui était dégagée de chez lui. Je ne sais pas si vous imaginez, il y avait un hélicoptère en dessus de sa maison. C'est une honte ce qu'ils ont fait à cet homme. Et quelques temps après il est mort et sa femme et sa fille ont repris tout ça. Et les produits Beljanski, si vous ne connaissez pas, si vous avez un cancer, allez sur internet, regardez les produits Beljanski, c'est quelque chose de très bien. Moi ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Je les ai pris. Merci Marc Rosa de m'en avoir parlé. Merci au docteur Kiener aussi qui m'a beaucoup aidé, soutenu. Battez-vous. L'ennemi est vaincu au nom de Jésus. L'ennemi est vaincu. Vraiment vaincu. Mais n'oubliez pas que c'est un serpent. C'est un serpent. Et qu'il a un pouvoir, celui de vous hypnotiser. Alors il faut que vous détourniez vos yeux de lui. Il faut que vous détourniez vos yeux de sa méchanceté. Il faut que vous détourniez vos yeux des symptômes qu'il place en vous. Il ne faut pas vous laisser hypnotiser par les symptômes qui sont bien réels dans votre corps. Il faut aussi que vous détourniez les yeux des méchantes personnes que le diable met sur votre chemin. Il faut détourner vos yeux. Il ne faut pas les regarder. Il ne faut pas les écouter. Il faut aller le plus loin possible de ces gens. Ils sont toxiques. Ils sont toxiques. Détournez vos yeux et regardez à Jésus. On a un petit chant qui dit ça. Vers Jésus, lève les yeux. Contemple son visage merveilleux. Et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Regardez vers le Sauveur, regardez vers le divin guérisseur, regardez vers le protecteur tout-puissant. Et puis aussi, riez. Riez, du verbe rire. Chassez de votre vie les pleurnichards. Entourez-vous de gens rigolos. Vous allez me dire, mais c'est pas spirituel ce que tu me dis là, Michel. Écoutez, le rire est le propre de l'homme et l'homme a été créé par Dieu. Rire, c'est bon. Rigoler. Rigoler. Cultiver la bonne humeur. Rigoler. Ne vous laissez pas sombrer dans la tristesse. C'est horrible. C'est ce que j'ai fait avec mes joues. On a fait un truc, vous allez dire, c'est charnel. Si vous pensez que je suis charnel, vous avez raison, j'ai des côtés charnels, je suis encore dans la chair. Je me suis acheté l'intégrale de Chevalier et Las Palais. Mais j'ai ri. Mais ça m'a fait un bien. Il faut rire. Dans la... Il ne faut pas se laisser avoir par la tristesse. Pardonnez-moi, vous, les saints, qui sont tellement hauts, élevés dans les choses sacrées et saintes, de vous parler de Chevalier et Las Palais. Vous qui êtes des intouchables, saintes, ni touche de la branlette, pardonnez-moi de vous parler de cette manière-là. Non, ne pardonnez pas. Je m'en fous de ce que vous pensez. Moi, je donne des conseils à des gens intelligents qui sont capables de comprendre. Si vous êtes choqués par ce que je vous dis, je m'en fous. Riez. Riez dans la figure de l'ennemi. Riez dans la figure de vos ennemis. Riez. Dieu rit. La Bible dit que Dieu se moque d'eux. Et il rit. Dans mon livre, je raconterai toutes ces choses. Tu te réjouis de lire mon livre? Voilà, mes frères et sœurs. J'ai donc eu un cancer et grâce à Dieu, je suis guéri, débarrassé du mal et de tout ce qui était un poids mort dans mon existence. Tout ce qui était un poids mort dans mon existence. C'est pas merveilleux? Oui, c'est merveilleux parce que Jésus est merveilleux. Et il a voulu que ce texte soit écrit dans la Bible afin que quand le mal nous atteigne, quand le mal nous atteint, on se souvienne toujours que l'Éternel nous en délivre toujours. Seigneur Jésus, veuille bénir mes frères et sœurs qui ont eu le courage et l'intelligence d'écouter ce message jusqu'au bout avec un bon esprit bien disposé et veuille les bénir. Pour les autres, fais ce que tu veux avec. Merci Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu. À bientôt. La petite voix que vous venez d'entendre, c'est mon petit-fils. Au revoir. Au revoir. Voilà.